Chapitre 3. Lorsque Madame de Chaverny quitta le château de Madame Lambert, la nuit était horriblement noire, l'atmosphère lourde et étouffante. De temps en temps, des éclairs illuminant le paysage dessinaient les silhouettes noires des arbres sur un fond d'un oranger livide. L'obscurité semblait redoubler après chaque éclair, et le cocher ne voyait pas la tête de ses chevaux. Un orage violent éclata bientôt. La pluie, qui tombait d'abord en gouttes larges et rares, se changea promptement en un véritable déluge. De tous côtés, le ciel était en feu et l'artillerie céleste commençait à devenir assourdissante. Les chevaux, effrayés, soufflaient fortement et se cabraient au lieu d'avancer, mais le cocher avait parfaitement dîné. Son épais carrick et surtout le vin qu'il avait bu l'empêchaient de craindre l'eau et les mauvais chemins. Il fouettait énergiquement les pauvres bêtes, non moins intrépides que César dans la tempête lorsqu'il disait à son pilote « Mais tu portes César et sa fortune !» Madame de Chaverny, n'ayant pas peur du tonnerre, ne s'occupait guère de l'orage. Elle se répétait tout ce que Darcy lui avait dit, et se repentait de ne lui avoir pas dit 100 choses qu'elle aurait pu lui dire, lorsqu'il fut tout à coup interrompu dans ses méditations par un choc violent que reçut sa voiture. En même temps, les glaces volèrent en éclats, un craquement de mauvais augure se fit entendre, la calèche était précipitée dans un fossé. Julie en fut quitte pour la peur, mais la pluie ne cessait pas. Une roue était brisée, les lanternes s'étaient éteintes, et l'on ne voyait pas aux environs une seule maison pour se mettre à l'abri. Le cocher jurait, le valet de pied maudissait le cocher et pestait contre sa maladresse. Julie restait dans sa voiture, se demandant comment on pourrait revenir à paix ou ce qu'il fallait faire. Mais à chaque question qu'elle faisait, elle recevait cette réponse désespérante « Mais c'est impossible !» Cependant, on entendit de loin le bruit sourd d'une voiture qui s'approchait. Bientôt, le cocher de Madame de Chaverny reconnut à sa grande satisfaction un de ses collègues avec lequel il avait jeté les fondements d'une tendre amitié dans l'office de Madame Lambert. Il lui cria de s'arrêter. La voiture s'arrêta, et à peine le nom de Madame Chaverny fut-il prononcé, qu'un jeune homme qui se trouvait dans le coupé ouvrit lui-même la portière et s'écriant « Est-elle blessée ?» s'élança d'un bond auprès de la calèche de Julie. Elle avait reconnu Darcy. Elle l'attendait. Leurs mains se rencontrèrent dans l'obscurité et Darcy crut sentir que Madame Chaverny pressait la sienne. Mais c'était probablement un effet de la peur. Après les premières questions, Darcy offrit naturellement sa voiture. Julie ne répondit pas d'abord, car elle était fort indécise sur le parti qu'elle devait prendre. D'un côté, elle pensait aux 3 ou 4 lieues qu'elle aurait à faire en tête-à-tête avec un jeune homme, si elle voulait aller à Paris. D'un autre côté, si elle revenait au château pour y demander l'hospitalité à Madame Lambert, elle frémissait à l'idée de raconter le romanesque accident de la voiture versée et du secours qu'elle aurait reçu de Darcy. Reparaître au salon au milieu de la partie de whist, sauvée par Darcy comme la femme turque, oh, on ne pouvait y songer. Mais aussi 3 longues lieues jusqu'à Paris. Pendant qu'elle flottait ainsi dans l'incertitude et qu'elle balbutiait assez maladroitement quelques phrases banales sur l'embarras qu'elle allait causer, Darcy, qui semblait lire au fond de son cœur, lui dit froidement « Mais prenez ma voiture, madame, je resterai dans la vôtre jusqu'à ce qu'il passe quelqu'un pour Paris. » Julie, craignant de montrer trop de pruderie, se hâta d'accepter la première offre, mais non la seconde. Et comme sa résolution fut toute soudaine, Elle n'eut pas le temps de résoudre l'importante question de savoir si on irait à P ou à Paris. Elle était déjà dans le coupé de Darcy, enveloppée de son manteau, qu'il s'empressa de lui donner, et les chevaux trottaient lestement vers Paris, avant qu'il eût pensé à dire où elle voulait aller. Son domestique avait choisi pour elle, en donnant au cocher le nom de la rue de sa maîtresse. La conversation commença embarrassée de part et d'autre. Le son de voix de Darcy était bref et paraissait annoncer un peu d'humeur. Julie s'imagina que son irrésolution l'avait choquée et qu'il la prenait pour une prude ridicule. Déjà, elle était tellement sous l'influence de cet homme qu'elle s'adressait intérieurement de vifs reproches et ne songeait plus qu'à dissiper ce mouvement d'humeur dont elle s'accusait. L'habit de Darcy était mouillé, elle s'en aperçut, et se débarrassant aussitôt du manteau, elle exigea qu'il s'en couvrît. De là un combat de générosité, d'où il résulta que, le différend ayant été tranché par la moitié, chacun eut sa part du manteau. Imprudence énorme qu'elle n'aurait pas commise sans ce moment d'hésitation qu'elle voulait faire oublier. Ils étaient si près l'un de l'autre que la joue de Julie pouvait sentir la chaleur de l'haleine de Darcy. Les cahots de la voiture les rapprochaient même quelquefois davantage. « Oh, ce manteau qui nous enveloppe tous les deux, » dit Darcy, « me rappelle nos charades d'autrefois. Vous souvenez-vous d'avoir été ma Virginie lorsque nous nous affublâmes tous deux du mantelet de votre grand-mère ? Ah oui, et de la mercuriale qu'elle me fit à cette occasion. Ah ah !» s'écria Darcy. « Quel heureux temps que celui-là ! Combien de fois j'ai pensé avec tristesse et bonheur à nos divines soirées de la rue Bellechasse. Vous rappelez-vous les belles ailes de vautour qu'on vous avait attachées aux épaules avec des rubans roses et le bec de papier doré que je vous avais fabriqué avec tant d'art ? Oui, répondit Julie, vous étiez Prométhée et moi le vautour. Mais quelle mémoire vous avez ! Comment avez-vous pu vous souvenir de toutes ces folies ? Car il y a si longtemps que nous nous sommes vus. Est-ce un compliment que vous me demandez ? Dit Darcy en souriant et s'avançant de manière à la regarder en face. Puis d'un ton plus sérieux. En vérité, poursuivit-il, il n'est pas extraordinaire que j'aie conservé le souvenir des plus heureux moments de ma vie. Quel talent vous aviez pour les charades, dit Julie, qui craignait que la conversation ne prît un tour trop sentimental. Voulez-vous que je vous donne une autre preuve de ma mémoire ? Interrompit Darcy. Vous rappelez-vous notre traité d'alliance chez Madame Lambert ? Nous nous étions promis de dire du mal de l'univers entier, en revanche, de nous soutenir l'un l'autre envers et contre tous. Mais notre traité a eu le sort de la plupart des traités. Il est resté sans exécution. Qu'en savez-vous ? Oh, hélas ! J'imagine que vous n'avez pas eu souvent occasion de me défendre. Car une fois éloigné de Paris, quel oisif s'est occupé de moi ? De vous défendre, non, mais de parler de vous à vos amis. Oh, mes amis ! S'écria Darcy, avec un sourire mêlé de tristesse. Oh, je n'en avais guère à cette époque que vous connussiez, du moins. Les jeunes gens que voyait madame votre mère me haïssaient, je ne sais pas pourquoi. Et quant aux femmes, où elles pensaient peu à monsieur l'attaché du ministère des Affaires étrangères. C'est peut-être que vous ne vous occupiez pas d'elles. Oui, cela est vrai. Jamais je ne suis faire l'aimable auprès des personnes que je n'aimais pas. Si l'obscurité avait permis de distinguer la figure de Julie, Darcy aurait pu voir qu'une vive rougeur s'était répandue sur ses traits en entendant cette dernière phrase à laquelle elle avait donné un sens auquel peut-être Darcy ne songeait pas. Quoi qu'il en soit, en laissant là des souvenirs trop bien conservés par l'un et par l'autre, Julie voulut le remettre un peu sur ses voyages, espérant que par ce moyen elle serait dispensée de parler. Le procédé réussit presque toujours avec les voyageurs, surtout avec ceux qui ont visité quelques pays lointains. Quel beau voyage que le vôtre, dit-elle, et combien je regrette de ne pouvoir jamais en faire un semblable. Mais Darcy n'était plus en humeur conteuse. Quel est ce jeune homme à moustache, demanda-t-il brusquement, qui vous parlait tout à l'heure? Cette fois, Julie rougit encore davantage. Oh, c'est un ami de mon mari, répondit-elle, un officier de son régiment. On dit, poursuivit-elle, sans vouloir abandonner son thème oriental, que les personnes qui ont vécu ce beau ciel bleu de l'Orient ne peuvent plus vivre ailleurs. Bon, il m'a déplu horriblement, je ne sais pas pourquoi. Oh, je parle de l'ami de votre mari, non, du ciel bleu. Quant à ce ciel bleu, madame, Dieu vous en préserve. On finit par le prendre tellement en guignon, à force de le voir toujours le même, qu'on admirerait comme le plus beau de tous les spectacles un sale brouillard de Paris. Rien n'agace plus les nerfs, croyez-moi, que ce beau ciel bleu, qui était bleu hier et qui sera bleu demain. Si vous saviez avec quelle impatience, avec quel désappointement, toujours renouvelé, on attend, on espère un nuage. Et cependant, vous êtes resté bien longtemps sous ce ciel bleu. Mais, madame, il m'était assez difficile de faire autrement. Oh, si j'avais pu ne suivre que mon inclination, je serais revenu bien vite dans les environs de la rue de Bellechasse, après avoir satisfait le petit mouvement de curiosité que doivent nécessairement exciter les étrangetés de l'Orient. Je crois que bien des voyageurs en diraient autant s'ils étaient aussi francs que vous. Comment passe-t-on son temps à Constantinople et dans les autres villes de l'Orient? Là, comme partout, il y a plusieurs manières de tuer le temps. Les Anglais boivent, les Français jouent, les Allemands fument, et quelques gens d'esprit, pour varier leur plaisir, se font tirer des coups de fusil en grimpant sur les toits pour lorgner les femmes du pays. C'est probablement à cette dernière occupation que vous donniez la préférence. Oh, pas du tout! Moi, j'étudiais le turc et le grec, ce qui me couvrait de ridicule. Quand j'avais terminé les dépêches de l'ambassade, je dessinais, je galopais aux eaux douces et puis j'allais au bord de la mer voir s'il ne venait pas quelque figure humaine de France ou d'ailleurs. Ce devait être un grand plaisir pour vous de voir un Français à une si grande distance de la France. Oui, mais pour un homme intelligent, combien vous levait-il de marchands de quincaillerie ou de Cachemire, ou ce qui est bien pis, de jeunes poètes qui, plus loin qu'il voyait quelqu'un dans l'ambassade, lui criaient « Menez-moi voir les ruines, menez-moi à Sainte-Sophie, conduisez-moi aux montagnes, à la mer d'Azur, je veux voir les lieux où soupirent les héros. » Puis quand ils ont attrapé un bon coup de soleil, ils s'enferment dans leur chambre et ne veulent plus rien voir que le dernier numéro du Constitutionnel. Ah, vous voyez tout en mal, suivant votre vieille habitude. Vous n'êtes pas corrigé, savez-vous, car vous êtes toujours aussi moqueur. Dites-moi, madame, s'il n'est pas bien permis à un damné qui frit dans sa poêle de s'égayer un peu aux dépens de ses camarades de friture. D'honneur, vous ne savez pas combien la vie que nous menons là-bas est misérable. Nous autres, secrétaires d'ambassade, nous ressemblons aux hirondelles qui ne se posent jamais. Pour nous, point de ces relations intimes qui font le bonheur de la vie, ce me semble. » Il prononça ces derniers mots avec un accent singulier et en se rapprochant de Julie. « Depuis 6 ans, je n'ai trouvé personne avec qui je puisse échanger mes pensées. Ben, vous n'aviez donc pas d'amis là-bas ? Je viens de vous dire qu'il est impossible d'en avoir en pays étranger. J'en avais laissé 2 en France. L'un est mort, l'autre est maintenant en Amérique. D'où il ne reviendra que dans quelques années, si la fièvre jaune ne le retient pas. Ben, si vous êtes seul, oui, seul. Et la société des femmes, quelle est-elle dans l'Orient? Est-ce qu'elle ne vous offre pas quelques ressources? Oh, pour cela, c'est le pire de tout. Quant aux femmes turques, il n'y faut pas songer. Des Grecques et des Arméniennes, ce qu'on peut dire de mieux à leur louange, c'est qu'elles sont fort jolies. Mais pour les femmes des consuls et des ambassadeurs, dispensez-moi de vous en parler. C'est une question diplomatique. Et si j'en disais ce que j'en pense, je pourrais me faire tort aux affaires étrangères. Vous ne paraissez pas aimer beaucoup votre carrière. Autrefois, vous désiriez avec tant d'ardeur entrer dans la diplomatie. Mais vous ne connaissez pas encore le métier. Maintenant, je voudrais être inspecteur des Boues de Paris. Oh Dieu, comment pouvez-vous dire cela? Paris, le séjour le plus maussade de la Terre. Ne blasphémez pas. Je voudrais entendre votre palinodie à Naples avec 2 ans de séjour en Italie. Voir Naples, oh, c'est ce que je désirais le plus au monde, répondit-elle en soupirant, pourvu que mes amis fussent avec moi. Oh, à cette condition, je ferais le tour du monde. Voyager avec ses amis, mais c'est comme si l'on restait dans son salon, tandis que le monde passerait devant vos fenêtres, comme un panorama qui se déroule. Eh bien, si c'est trop demandé, je voudrais voyager avec 2 amis seulement. Bon, pour moi, je ne suis pas si ambitieux. Je n'en voudrais qu'un seul ou qu'une seule, ajouta-t-il en souriant. Mais c'est un bonheur qui ne m'est jamais arrivé. Qu'il ne m'arrivera pas, reprit-il avec un soupir. Puis d'un ton plus gai. En vérité, j'ai toujours joué de malheur. Je n'ai jamais désiré bien vivement que 2 choses, et je n'ai pu les obtenir. Et qu'était-ce donc? Oh, rien de bien extravagant. Par exemple, j'ai désiré passionnément pouvoir valser avec quelqu'un. J'ai fait des études approfondies sur la valse. Je me suis exercé pendant des mois entiers, seul avec une chaise, pour surmonter l'étourdissement qui ne manquait jamais d'arriver, et quand je suis parvenu à n'avoir plus de vertige. Et avec qui désiriez-vous valser? Et si je vous disais que c'était avec vous? Et quand j'étais devenu, à force de peine, un valseur consommé, votre grand-mère, qui venait de prendre un confesseur janséniste, défendit la valse par un ordre du jour que j'ai encore sur le cœur. Et votre second souhait? Demanda Julie, fort troublée. Mon second souhait? Oh, je vous l'abandonne. J'aurais voulu, oh, c'était pas trop ambitieux de ma part, j'aurais voulu être aimé, mais aimé. C'est avant la valse que je souhaitais ainsi, et je ne suis pas l'ordre chronologique. J'aurais voulu, dis-je, être aimé par une femme qui m'aurait préféré à un bal, le plus dangereux de tous les rivaux, par une femme que j'aurais pu venir voir avec des bottes crottées au moment où elle se disposerait à monter en voiture pour aller au bal. Elle aurait été en grande toilette et elle m'aurait dit « Restons ». Mais c'était de la folie, on ne doit demander que des choses possibles. Mais que vous êtes méchant, toujours vos remarques ironiques. Mais rien ne trouve grâce devant vous, vous êtes toujours impitoyable pour les femmes. Moi, oh, Dieu m'en préserve, c'est de moi plutôt que je médis. Est-ce dire du mal des femmes que de soutenir qu'elles préfèrent une soirée agréable à un tête-à-tête avec moi? Un bal, une toilette, oh mon Dieu, mais qui aime le bal maintenant? Elle ne pensait guère à justifier tout son sexe mis en cause. Elle croyait entendre la pensée de Darcy, et la pauvre femme n'entendait que son propre cœur. À propos de toilettes et de bals, quel dommage que nous ne soyons plus en carnaval. J'ai rapporté un costume de femme grecque qui est charmant et qui vous irait à ravir. Vous m'en ferez un dessin pour mon album? Très volontiers. Vous verrez quel progrès j'ai fait depuis le temps où je crayonnais des bonshommes sur la table à thé de madame votre mère. À propos, madame, j'ai un compliment à vous faire. On m'a dit ce matin au ministère que monsieur de Chaverny allait être nommé gentilhomme de la chambre. Cela m'a fait grand plaisir. Julie tressaillit involontairement. Et Darcy poursuivit sans s'apercevoir de ce mouvement. Permettez-moi de vous demander votre protection dès à présent. Mais au fond, je ne suis pas trop content de votre nouvelle dignité. Je crains que vous ne soyez obligé d'aller habiter Saint-Cloud pendant l'été. Et alors, j'aurai moins souvent l'honneur de vous voir. Jamais je n'irai à Saint-Cloud, dit Julie d'une voix fort émue. Oh, tant mieux! Car Paris, voyez-vous, c'est le paradis dont il ne faut jamais sortir que pour aller de temps en temps dîner à la campagne chez Madame Lambert, à condition de revenir le soir. Que vous êtes heureuse, Madame, de vivre à Paris. Moi, qui n'y suis peut-être que pour peu de temps, vous n'avez pas d'idée combien je me trouve heureux dans le petit appartement que ma tante m'a donné. Et vous demeurez, m'a-t-on dit, dans le faubourg Saint-Honoré. On m'a indiqué votre maison. Vous devez avoir un jardin délicieux, si la manie de bâtir n'a pas changé déjà vos allées en boutique. Non, non, mon jardin est encore intact, Dieu merci. Quel jour recevez-vous, madame? Oh, je suis chez moi à peu près tous les soirs. Je serais charmé que vous voudriez bien me venir me voir quelquefois. Vous voyez, madame, que je fais comme si notre ancienne alliance subsistait encore. Je m'invite moi-même sans cérémonie et sans présentation officielle. Vous me pardonnerez, n'est-ce pas? Je ne connais plus que vous à Paris et madame Lambert. Tout le monde m'a oublié, mais vos deux maisons sont les seules que j'ai regrettées dans mon exil. Votre salon, surtout, doit être charmant. Vous qui choisissez si bien vos amis. Vous rappelez-vous les projets que vous faisiez autrefois pour le temps où vous seriez maîtresse de maison? Un salon inaccessible aux ennuyeux, de la musique quelquefois, toujours dans la conversation et bien tard, point de gens à prétention, un petit nombre de personnes se connaissant parfaitement et qui par conséquent ne cherchent point à mentir ni à faire de l'effet. Deux ou trois femmes spirituelles avec cela. Il est impossible que vos amis ne le soient pas. Et votre maison est la plus agréable de Paris. Oui, vous êtes la plus heureuse des femmes et vous rendez heureux tous ceux qui vous approchent. Pendant que Darcy parlait, Julie pensait que ce bonheur qu'il décrivait avec tant de vivacité, elle aurait pu l'obtenir si elle eût été mariée à un autre homme. Ah, Darcy, par exemple. Au milieu de ce salon imaginaire, si élégant et si agréable, elle pensait aux ennuyeux que Chaverny lui avait attirés. Au lieu de ces conversations si gaies, elle se rappelait les scènes conjugales comme celles qui l'avaient conduite à P. Elle se voyait enfin malheureuse à jamais. Attachée pour la vie à la destinée d'un homme qu'elle haïssait et qu'elle méprisait, tandis que celui qu'elle trouvait le plus aimable du monde, celui qu'elle aurait voulu charger du soin d'assurer son bonheur, demeurait toujours un étranger pour elle. Il était de son devoir de l'éviter, de s'en séparer. Et il était si près d'elle que les manches de sa robe étaient froissées par le revers de son habit. Darcy continua quelque temps à peindre les plaisirs de la vie de Paris avec toute l'éloquence que lui donnait une longue privation. Julie, cependant, sentait ses larmes couler le long de ses joues. Elle tremblait que Darcy ne s'en aperçût et la contrainte qu'elle s'imposait ajoutait encore à la force de son émotion. Elle étouffait. Elle n'osait faire un mouvement. Enfin, un sanglot lui échappa et tout fut perdu. Elle tomba la tête dans ses mains, à moitié suffoquée par les larmes et la honte. Darcy, qui ne pensait à rien moins, fut bien étonné. Pendant un instant, la surprise le rendit muet. Mais les sanglots redoublant, il se crut obligé de parler et de demander la cause de ces larmes si soudaines. « Mais qu'avez-vous, madame? Au nom de Dieu, madame, répondez-moi. Que vous arrive-t-il ?» Et comme la pauvre Julie, à toutes ces questions, serrait avec plus de force son mouchoir sur ses yeux, il lui prit la main et, écartant doucement le mouchoir, « Je vous en conjure, madame, dit-il d'un ton de voix altéré qui pénétra Julie jusqu'au fond du cœur, je vous en conjure, qu'avez-vous? Vous aurais-je offensé involontairement? Vous me désespérez par votre silence. » « Oh !» s'écria Julie, ne pouvant plus se contenir, « je suis bien malheureuse. » Et elle sanglota plus fort. « Malheureuse, mais comment, pourquoi ? Qui peut vous rendre malheureuse? Répondez-moi. » En parlant ainsi, il lui serrait les mains et sa tête touchait presque celle de Julie qui pleurait au lieu de répondre. Darcy ne savait que penser, mais il était touché de ses larmes. Il se trouvait rajeuni de 6 ans et il commençait à entrevoir dans un avenir qui ne s'était pas encore présenté à son imagination que du rôle de confident, il pourrait bien passer à un autre plus élevé. Comme elle s'obstinait à ne pas répondre, Darcy, craignant qu'elle ne se trouvât mal, laissa une des glaces de la voiture, détacha les rubans du chapeau de Julie, écarta son manteau et son châle. Les hommes sont gauches à rendre ses soins. Il voulait faire arrêter la voiture auprès d'un village, et il appelait déjà le cocher lorsque Julie, lui saisissant le bras, le supplia de ne pas faire arrêter et l'assura qu'elle était beaucoup mieux. Le cocher n'avait rien entendu et continuait à diriger ses chevaux vers Paris. « Mais je vous en supplie, ma chère madame de Chaverny, » dit Darcy en reprenant une main qu'il avait abandonnée un instant. « Je vous en conjure, dites-moi, qu'avez-vous ? Je crains, je ne puis comprendre comment j'ai été assez malheureux pour vous faire de la peine. »« Oh, ce n'est pas vous !» s'écria Julie, et elle lui serra un peu la main. « Eh bien, dites-moi, qui peut vous faire ainsi pleurer? Parlez-moi avec confiance. »« Ne sommes-nous pas d'anciens amis ?» ajouta-t-il en souriant, et serra à son tour la main de Julie. Mais vous me parliez du bonheur dont vous me croyiez entouré, et ce bonheur est si loin de moi. Comment ? N'avez-vous pas tous les éléments du bonheur ? Vous êtes jeune, riche, jolie, votre mari tient un rang distingué dans la société. Je le déteste, s'écria Julie hors d'elle-même. Je le méprise. Et elle cacha sa tête dans son mouchoir en sanglotant plus fort que jamais. « Oh !» pensa Darcy, « cela devient fort grave. » Et profitant avec adresse de tous les chaos de la voiture pour se rapprocher davantage de la malheureuse Julie, « Pourquoi ?» lui disait-il de sa voix la plus douce et la plus tendre du monde, « mais pourquoi vous affliger ainsi ?» Faut-il qu'un être que vous méprisez ait autant d'influence sur votre vie? Et pourquoi lui permettez-vous d'empoisonner lui seul votre bonheur? Mais est-ce donc à lui que vous devez demander ce bonheur? Et il lui baisa le bout des doigts. Mais comme elle retira aussitôt sa main avec terreur, il craignit d'avoir été trop loin. Mais, déterminé à voir la fin de l'aventure, il dit en soupirant d'une façon assez hypocrite, « Que j'ai été trompé. Lorsque j'ai appris votre mariage, J'ai cru que monsieur de Chaverny vous plaisait réellement. Ah, monsieur Darcy, vous ne m'avez jamais connu. Le ton de sa voix disait clairement, je vous ai toujours aimé, vous n'avez pas voulu vous en apercevoir. La pauvre femme croyait en ce moment de la meilleure foi du monde qu'elle avait toujours aimé Darcy pendant les 6 années qui venaient de s'écouler avec autant d'amour qu'elle en sentait pour lui dans ce moment. Et vous ? S'écria Darcy en s'animant, vous, madame, m'avez-vous jamais connue ? Avez-vous jamais su quels étaient mes sentiments ? Ah, si vous m'aviez mieux connue, nous serions sans doute heureux maintenant l'un et l'autre. Je suis malheureuse, répéta Julie avec un redoublement de larmes et en lui serrant la main avec force. Mais quand même vous m'auriez compris, madame, continua Darcy, avec cette expression de mélancolie ironique qui lui était habituelle, qu'en serait-il résulté ? J'étais sans fortune, la vôtre était considérable. Votre mère m'eût repoussé avec mépris, j'étais condamné d'avance. Vous-même, oui, vous, Julie, avant qu'une fatale expérience ne vous eût montré où est le véritable bonheur, vous auriez sans doute ri de ma présomption, et une voiture bien vernie avec une couronne de comte sur les panneaux aurait été sans doute alors le plus sûr moyen de vous plaire. Mais au ciel, et vous aussi, mais personne n'aura donc pitié de moi. Pardonnez-moi, chère Julie, s'écria-t-il très ému lui-même. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Oubliez ces reproches. Non, je n'ai pas le droit de vous en faire, moi. Je suis plus coupable que vous. Je n'ai pas su vous apprécier. Je vous ai cru faible comme les femmes du monde où vous viviez. J'ai douté de votre courage, chère Julie, et j'en suis cruellement puni. Il baisait avec feu ses mains qu'elle ne retirait plus. Il allait la presser sur son sein, mais Julie le repoussa avec une vive expression de terreur et s'éloigna de lui autant que la largeur de la voiture pouvait le lui permettre. Sur quoi, Darcy, d'une voix dont la douceur même rendait l'expression plus poignante. Excusez-moi, madame, j'avais oublié Paris. Je me rappelle maintenant qu'on s'y marie, mais qu'on n'y aime point. « Oh oui, je vous aime !» murmura-t-elle en sanglotant, et elle laissa tomber sa tête sur l'épaule de Darcy. Darcy la serra dans ses bras avec transport, cherchant à arrêter ses larmes par des baisers. Elle essaya encore de se débarrasser de son étreinte, mais cet effort fut le dernier qu'elle tenta. Darcy s'était trompé sur la nature de son émotion. Il faut bien le dire, il n'était pas amoureux. Il avait profité d'une bonne fortune qui semblait se jeter à sa tête et qui méritait bien qu'on ne la laissât pas échapper. D'ailleurs, comme tous les hommes, il était beaucoup plus éloquent pour demander que pour remercier. Cependant, il était poli et la politesse tient lieu souvent de sentiments plus respectables. Le premier mouvement d'ivresse passé, il débitait donc à Julie des phrases tendres qu'il composait sans trop de peine et qu'il accompagnait de nombreux baisements de mains qui lui épargnaient autant de paroles. Il voyait sans regret que la voiture était déjà aux barrières et que dans peu de minutes, il allait se séparer de sa conquête. Le silence de Madame de Chaverny au milieu de ses protestations, l'accablement dans lequel elle paraissait plongée, rendait difficile, ennuyeuse même, si j'ose le dire, la position de son nouvel amant. Elle était immobile dans un coin de la voiture, serrant machinalement son châle contre son sein. Elle ne pleurait plus. Ses yeux étaient fixes, et lorsque Darcy lui prenait la main pour la baiser, cette main, dès qu'elle était abandonnée, retombait sur ses genoux comme morte. Elle ne parlait pas, entendait à peine, mais une foule de pensées déchirantes se présentait à la fois à son esprit, et si elle voulait en exprimer une autre à l'instant venait de lui fermer la bouche. Comment rendre le chaos de ses pensées, ou plutôt de ses images, qui se succédaient avec autant de rapidité que les battements de son cœur? Elle croyait entendre à ses oreilles des mots sans liaison et sans suite, mais tous avec un sens terrible. Le matin, elle avait accusé son mari, il était vil à ses yeux. Maintenant, elle était 100 fois plus méprisable. Il lui semblait que sa honte était publique. La maîtresse du duc de H la repousserait à son tour. Madame Lambert, tous ses amis ne voudraient plus la voir. Et Darcy, l'aimait-il? Il la connaissait à peine. Il l'avait oubliée. Il ne l'avait même pas reconnue tout de suite. Peut-être l'avait-il trouvée bien changée. Il était froid pour elle. C'était là le coup de grâce. Son entraînement pour un homme qui la connaissait à peine, qui ne lui avait pas montré de l'amour, mais de la politesse seulement. Bon, il était impossible qu'il l'aimât. Elle-même l'aimait-elle? Non, puisqu'il s'était marié lorsqu'à peine il venait de partir. Quand la voiture entra dans Paris, les horloges sonnaient 1 heure. C'était à 4 heures qu'elle avait vu Darcy pour la première fois. Oui, vu, elle pouvait dire revu. Elle avait oublié ses traits, sa voix. C'était un étranger pour elle. 9 heures après, elle était devenue sa maîtresse. 9 heures avaient suffi pour cette singulière fascination, avaient suffi pour qu'elle fût déshonorée à ses propres yeux, aux yeux de Darcy lui-même. Car que pouvait-il penser d'une femme aussi faible, comment ne pas la mépriser? Parfois, la douceur de la voix de Darcy, les paroles tendres qu'il lui adressait, la ranimaient un peu. Alors elle s'efforçait de croire qu'elle sentait réellement l'amour dont il parlait. Elle ne s'était pas rendue si facilement. Leur amour durait depuis longtemps lorsque Darcy l'avait quittée. Darcy devait savoir qu'elle ne s'était mariée que par suite du dépit que son départ lui avait fait éprouver. Les torts étaient du côté de Darcy. Pourtant, il l'avait toujours aimée pendant sa longue absence. Et à son retour, il avait été heureux de la retrouver aussi constante que lui. La franchise de son aveu, sa faiblesse même, devait plaire à Darcy, qui détestait la dissimulation. Mais l'absurdité de ses raisonnements lui apparaissait bientôt. Les idées consolantes s'évanouissaient et elle restait en proie à la honte et au désespoir. À un moment, elle voulut exprimer ce qu'elle sentait. Elle venait de se représenter qu'elle était proscrite par le monde, abandonnée par sa famille. Après avoir si grièvement offensé son mari, sa fierté ne lui permettait pas de le revoir jamais. « Je suis aimée de Darcy, se dit-elle, je ne puis aimer que lui. Sans lui, je ne puis être heureuse. Je serai heureuse partout avec lui. Allons ensemble dans quelque lieu où jamais je ne puisse voir une figure qui me fasse rougir, qu'il m'emmène avec lui à Constantinople. » Mais Darcy était à 100 lieues de deviner ce qui se passait dans le cœur de Julie. Il venait de remarquer qu'ils entraient dans la rue habitée par Madame de Chaverny et remettaient ses gants glacés avec beaucoup de sang-froid. « À propos, dit-il, il faut que je sois présenté officiellement à Monsieur de Chaverny. Oh, je suppose que nous serons bientôt amis, bons amis. Présenté par Madame Lambert, je serai sur un bon pied dans votre maison. En attendant, puisqu'il est à la campagne, je puis vous voir ?» La parole expira sur les lèvres de Julie. Chaque mot de Darcy était un coup de poignard. Comment parler de fuite, d'enlèvement à cet homme si calme, si froid, qui ne pensait qu'à arranger sa liaison pour l'été de la manière la plus commode ? Elle brisa avec rage la chaîne d'or qu'elle portait à son cou et tordit les chons et néons entre ses doigts. La voiture s'arrêta à la porte de la maison qu'elle occupait. Darcy fut fort empressé à lui arranger son châle sur les épaules, à rajuster son chapeau convenablement. Lorsque la portière s'ouvrit, il lui présenta la main de l'air le plus respectueux, mais Julie s'élança à terre sans vouloir s'appuyer sur lui. « Je vous demanderai la permission, madame, dit-il en s'inclinant profondément, de venir savoir de vos nouvelles. »« Adieu, dit Julie d'une voix étouffée. » Darcy remonta dans son coupé et se fit ramener chez lui en sifflant de l'air d'un homme très satisfait de sa journée. Aussitôt qu'il se retrouva dans son appartement de garçon, Darcy passa une robe de chambre turque, mit des pantoufles, ayant chargé de tabac de l'attaquier une longue pipe dont le tuyau était de merisier de Bosnie et le bouquin d'Alban jaune, il se mit en devoir de la savourer en se reversant dans une grande bergère garnie de maroquins et dûment rembourrée. Aux personnes qui s'étonneraient de le voir dans cette vulgaire complication au moment où peut-être il aurait dû rêver plus poétiquement, oh, je répondrai qu'une bonne pipe est utile, sinon nécessaire à la rêverie, et que le véritable moyen de bien jouir d'un bonheur, c'est de l'associer à un autre bonheur. Un de mes amis, homme fort sensuel, n'ouvrait jamais une lettre de sa maîtresse avant d'avoir ôté sa cravate, attisée par le feu si l'on était en hiver, et s'être couché sur un canapé commode. « En vérité, se dit Darcy, j'aurais été un grand sot si j'avais suivi le conseil de Tyrell et si j'avais acheté une esclave grecque pour l'amener à Paris. Parbleu, oh, c'eût été, comme disait mon ami Halem Effendi, c'eût été porter des figures, des figues à Damas. Dieu merci, la civilisation a marché grand train pendant mon absence. Il ne me paraît que la rigidité soit portée à l'excès. Ce pauvre Chaverny, ha ha! Ah, si je pouvais, j'avais été assez riche, et il y a quelques années j'aurais épousé Julie, et ce serait peut-être Chaverny qui l'aurait reconduite ce soir. Si je me marie jamais, je ferai visiter souvent la voiture de ma femme, pour qu'elle n'ait pas besoin de chevaliers errants qui la tirent des fossés. Voyons, recordons-nous. À tout prendre, c'est une très jolie femme, elle a de l'esprit. Et si je n'étais pas aussi vieux que je le suis, il ne tiendrait qu'à moi de croire que c'est à mon prodigieux mérite. Ah, mon prodigieux mérite, hélas, hélas. Dans un mois, peut-être, mon mérite sera au niveau de celui de ce monsieur à moustache. Morbleu, oh, j'aurais bien voulu que cette petite Nastasia que j'ai tant aimée sût lire et écrire et puis parler des choses avec les honnêtes gens. Car je crois que c'est là la seule femme qui m'ait aimée. Pauvre enfant! Sa pipe s'éteignit et il s'endormit aussitôt. En rentrant dans son appartement, Madame de Chaverny rassembla toutes ses forces pour dire d'un air naturel à sa femme de chambre qu'elle n'avait pas besoin d'elle et qu'elle la laissa seule. Aussitôt que cette fille fut sortie, elle se jeta sur son lit, et là elle se mit à pleurer plus amèrement, maintenant qu'elle se trouvait seule, que lorsque la présence de Darcy l'obligeait à se contraindre. La nuit a certainement une influence très grande sur les peines morales comme sur les douleurs physiques. Elle donne à toute une teinte lugubre, et les images qui le jour seraient indifférentes ou même riantes nous inquiètent et nous tourmentent la nuit, comme des spectres qui n'ont de puissance que pendant les ténèbres. Il semble que pendant la nuit, la pensée redouble d'activité et que la raison perd son empire. Une espèce de fantasmagorie intérieure nous trouble et nous effraie sans que nous ayons la force d'écarter la cause de nos terreurs ou d'en examiner froidement la réalité. Qu'on se représente la pauvre Julie étendue sur son lit à demi habillée, s'agitant sans cesse, tantôt dévorée d'une chaleur brûlante, tantôt glacée par un frisson pénétrant, tressaillant au moindre craquement de la boiserie et entendant distinctement les battements de son cœur. Elle ne conservait de sa position qu'une angoisse vague dont elle cherchait en vain la cause. Puis tout d'un coup, le souvenir de cette fatale soirée passait dans son esprit aussi rapide qu'un éclair, et avec lui se réveillait une douleur vive et aiguë comme celle que produirait un fer rouge dans une blessure cicatrisée. Tantôt elle regardait sa lampe, observant avec une attention stupide toutes les vacillations de la flamme, jusqu'à ce que les larmes qui s'amassaient dans ses yeux, elle ne savait pourquoi, l'empêchassent de voir la lumière. « Pourquoi ces larmes ?» se disait-elle. « Oh, je suis déshonorée !» Tantôt, elle comptait les glands des rideaux de son lit, mais elle n'en pouvait jamais retenir le nombre. « Mais quelle est donc cette folie ?» pensait-elle. « Folie, oui, car il y a une heure, je me suis donnée comme une misérable courtisane à un homme que je ne connais pas. » Puis elle suivait d'un œil hébété l'aiguille de sa pendule, avec l'anxiété d'un condamné qui voit approcher l'heure de son supplice. Tout à coup, la pendule sonnait. « Oh, il y a 3 heures, » disait-elle, tressaillant en sursaut, « j'étais avec lui. » Et je suis déshonorée. » Elle passa toute la nuit dans cette agitation fébrile. Quand le jour parut, elle ouvrit sa fenêtre et l'air frais et piquant du matin lui apporta quelque soulagement. Penchée sur la balustrade de sa fenêtre qui donnait sur le jardin, elle respirait l'air froid avec une espèce de volupté. Le désordre de ses idées se dissipa peu à peu. Aux vagues tourments, au délire qui l'agitait, succéda un désespoir concentré qui était un repos en comparaison. Il fallait prendre un parti. Elle s'occupa de chercher alors ce qu'elle avait à faire. Elle ne s'arrêta pas un moment à l'idée de revoir Darcy. Cela lui paraissait impossible. Elle serait morte de honte en l'apercevant. Elle devait quitter Paris, où dans 2 jours, tout le monde la montrerait du doigt. Sa mère était à Nice, elle irait la rejoindre, lui avouerait tout. Puis, après s'être épanchée dans son sein, elle n'avait plus qu'une chose à faire. C'était de chercher quelque endroit désert en Italie, inconnu aux voyageurs, où elle irait vivre seule et mourir bientôt. Cette résolution, une fois prise, elle se trouva plus tranquille. Elle s'assit devant une petite table en face de la fenêtre, et la tête dans ses mains, elle pleura, mais cette fois sans amertume. La fatigue et l'abattement l'emportèrent enfin, et elle s'endormit, ou plutôt elle cessa de penser pendant 1 heure à peu près. Elle se réveilla avec le frisson de la fièvre. Le temps avait changé, le ciel était gris, et une pluie fine et glacée annonçait du froid et de l'humidité pour tout le reste du jour. Julie sonna sa femme de chambre. « Ma mère est malade, lui dit-elle, il faut que je parte sur le champ pour Nice. Faites une malle, je veux partir dans 1 heure. » « Mais madame, qu'avez-vous? Vous n'êtes-vous pas malade ?»« Madame ne s'était pas couchée !» s'écria la femme de chambre, surprise et alarmée du changement qu'elle observa sur les traits de sa maîtresse. « Non, je veux partir !» dit Julie d'un ton d'impatience. « Il faut absolument que je parte. Allez, préparez-moi ma malle. » Dans notre civilisation moderne, il ne suffit pas d'un simple acte de la volonté pour aller d'un lieu à un autre. Il faut un passeport, il faut faire des paquets, emportaient des cartons, s'occupaient de cent préparatifs ennuyeux qui suffiraient pour ôter l'envie de voyager. Mais la patience de Julie abrégea beaucoup toutes ces lenteurs nécessaires. Elle allait et venait de chambre en chambre, aidait elle-même à faire les malles, entassant sans ordre des bonnets et des robes accoutumées à être traitées avec plus d'égard. Pourtant, les mouvements qu'elle se donnait contribuaient plutôt à retarder ses domestiques qu'à les rater. Madame, sans doute prévenu monsieur, demanda timidement la femme de chambre. Julie, sans lui répondre, prit du papier. Elle écrivit « Ma mère est malade à Nice. Je vais auprès d'elle. » Elle plia le papier en quatre, mais ne put se résoudre à y mettre une adresse. Au milieu des préparatifs de départ, un domestique entra. « Monsieur de Châteaufort, dit-il, demande si madame est visible. » Il y a aussi un autre monsieur qui est venu en même temps que je ne connais pas, mais voici sa carte. Elle lut E. Darcy, secrétaire d'ambassade. Elle put à peine retenir un cri. Oh, je ne suis pour personne, s'écria-t-elle. Dites que je suis malade, ne dites pas que je vais partir. Elle ne pouvait s'expliquer comment Châteaufort et Darcy venait la voir en même temps, et dans son trouble, elle ne douta pas que Darcy n'eût déjà choisi que Châteaufort pour son confident. Rien n'était plus simple, cependant, que leur présence simultanée. Amenés par le même motif, ils s'étaient rencontrés à la porte, et après avoir échangé un salut très froid, ils s'étaient tout bas donnés au diable l'un à l'autre de grand cœur. Sur la réponse du domestique, ils descendirent ensemble l'escalier, se saluèrent de nouveau encore plus froidement et s'éloignèrent chacun dans une direction opposée. Châteaufort avait remarqué l'attention particulière que Madame de Chaverny avait montrée pour Darcy, et dès ce moment il l'avait prise en haine. De son côté, Darcy, qui se piquait d'être physionomiste, n'avait pu observer l'air embarras et de contrariété de Châteaufort sans en conclure qu'il aimait Julie. Et comme en sa qualité de diplomate il était porté à supposer le mal a priori, il avait conclu fort légèrement que Julie n'était pas cruelle pour Châteaufort. « Cette étrange coquette, se disait-il à lui-même en sortant, n'aura pas voulu nous recevoir ensemble, de peur d'une scène d'explication comme celle du misanthrope. Mais j'ai été bien sot de ne pas trouver quelque prétexte pour rester et laisser partir ce jeune fat. Assurément, si j'avais entendu seulement qu'il eut le dos tourné, j'aurais été admis, car j'ai sur lui l'incontestable avantage de la nouveauté. » Tout en faisant ses réflexions, il s'était arrêté, puis il s'était retourné, puis il rentrait dans l'hôtel de Madame de Chaverny. Châteaufort, qui s'était aussi retourné plusieurs fois pour l'observer, revint sur ses pas et s'établit en croisière à quelque distance pour le surveiller. Darcy dit au domestique, surpris de le revoir, qu'il avait oublié de lui donner un mot pour sa maîtresse, qu'il s'agissait d'une affaire pressée et d'une commission dont une dame l'avait chargé pour Madame de Chaverny. Se souvenant que Julie entendait l'anglais, il écrivit sur sa carte au crayon « Begs leave to ask when he can show to Madame de Chaverny Mr. Kitch Hallebaum. » Se permet de demander quand il peut montrer à Madame de Chaverny son album turc. Il remit la carte au domestique et dit qu'il attendrait la réponse. Cette réponse tarda longtemps. Enfin, le domestique revint fort troublé. « Madame, dit-il, s'est trouvée mal tout à l'heure et elle est trop souffrante maintenant pour pouvoir vous répondre. » Tout cela avait duré un quart d'heure. Darcy ne croyait guère à l'évanouissement, mais il était bien évident qu'on ne voulait pas le voir. Il prit son parti philosophiquement, et se rappelant qu'il avait des visites à faire dans le quartier, il sortit sans se mettre autrement en peine de ce contretemps. Châteaufort l'attendait dans une anxiété furieuse. En le voyant passer, il ne douta pas qu'il ne fût son rival heureux, et il se promit bien de saisir aux cheveux la première occasion de se venger de l'infidèle et de son complice. Le commandant Perrin, qu'il rencontra fort à propos, reçut sa confidence et le consola du mieux qu'il put, non sans lui remontrer le peu d'apparence de ses soupçons. Julie s'était bien réellement évanouie en recevant la seconde carte de Darcy. Son évanouissement fut suivi d'un crachement de sang qui l'affaiblit beaucoup. Sa femme de chambre avait envoyé chercher son médecin, mais Julie refusa obstinément de le voir. Vers 4 heures, les chevaux de poste étaient arrivés, les malles attachées. Tout était prêt pour le départ. Julie monta en voiture, toussant horriblement et dans un état à faire pitié. Pendant la soirée et toute la nuit, elle ne parla qu'au valet de chambre assis sur le siège de la calèche, et seulement pour qu'il dît au postillon de se hâter. Elle toussait toujours et paraissait souffrir beaucoup de la poitrine, mais elle ne fut pas à entendre une plainte. Le matin, elle était si faible qu'elle s'évanouit lorsqu'on ouvrit la portière. On la descendit dans une mauvaise auberge où on la coucha. Un médecin de village fut appelé. Il la trouva avec une fièvre violente et lui défendit de continuer son voyage. Pourtant, elle voulait toujours partir. Dans la soirée, le délire vint et tous les symptômes augmentèrent de gravité. Elle parlait continuellement avec une volubilité si grande qu'il était très difficile de la comprendre. Dans ces phrases incohérentes, les noms de Darcy, de Châteaufort et de Madame Lambert revenaient souvent. La femme de chambre écrivit à Monsieur de Chaverny pour lui annoncer la maladie de sa femme. Mais elle était à près de 30 lieues de Paris. Chaverny chassait chez le duc de H, et la maladie faisait tant de progrès qu'il était douteux qu'il pût arriver à temps. Le valet de chambre, cependant, avait été à cheval à la ville voisine et en avait ramené un médecin. Celui-ci blâma les prescriptions de son confrère, déclara qu'on l'appelait bien tard et que la maladie était grave. Le délire cessa au lever du jour et Julie s'endormit alors profondément. Lorsqu'elle s'éveilla 2 ou 3 heures après, elle parut avoir de la peine à se rappeler par quelle suite d'accident elle se trouvait couchée dans une sale chambre d'auberge. Pourtant, la mémoire lui revint bientôt. Elle dit qu'elle se sentait mieux et parla même de repartir le lendemain. Puis, après avoir paru méditer longtemps en tenant la main sur son front, elle demanda de l'encre et du papier et voulut écrire. Sa femme de chambre la vit commencer des lettres qu'elle déchirait toujours après avoir écrit les premiers mots. En même temps, elle recommandait qu'on brûlât les fragments de papier. La femme de chambre remarqua sur plusieurs morceaux ce mot « monsieur », ce qui lui parut extraordinaire, disait-elle, car elle croyait que madame écrivait à sa mère ou à son mari. Sur un autre fragment, elle lut « Vous devez bien me mépriser ». Pendant près d'une demi-heure, elle essaya inutilement d'écrire cette lettre, qui paraissait la préoccuper vivement. Enfin, l'épuisement de ses forces ne lui permit pas de continuer. Elle repoussa le pupitre qu'on avait placé sur son lit et dit d'un air égaré à sa femme de chambre « Écrivez vous-même à Monsieur Darcy. « Que faut-il écrire, madame ?» demanda la femme de chambre, persuadée que le délire allait recommencer. « Écrivez-lui qu'il ne me connaît pas, que je ne le connais pas. » Et elle retomba accablée sur son oreiller. Ce furent les dernières paroles suivies qu'elle prononça. Le délire la reprit et ne la quitta plus. Elle mourut le lendemain, sans grandes souffrances apparentes. Chaverny arriva 3 jours après son enterrement. Sa douleur sembla véritable, et tous les habitants du village pleurèrent en le voyant debout dans le cimetière, contemplant la terre fraîchement remuée qui couvrait le cercueil de sa femme. Ils voulaient d'abord la faire exhumer et la transporter à Paris. Mais le maire s'y étant opposé, et le notaire lui ayant parlé de formalités sans fin, il se contenta de commander une pierre de liais et de donner des ordres pour l'érection d'un tombeau simple mais convenable. Châteaufort fut très sensible à cette mort si soudaine. Il refusa plusieurs invitations de bal. Et pendant quelque temps, on ne le vit que vêtu de noir. Dans le monde, on fit plusieurs récits de la mort de Madame de Chaverny. Suivant les uns, elle avait eu un rêve ou, si l'on veut, un pressentiment qui lui annonçait que sa mère était malade. Elle en avait été tellement frappée qu'elle s'était mise en route pour Nice-sur-le-Champ malgré un gros rhume qu'elle avait gagné en revenant de chez Madame Lambert, et ce rhume était devenu une fluxion de poitrine. D'autres, plus clairvoyants, assuraient d'un air mystérieux que Madame de Chaverny, ne pouvant se dissimuler l'amour qu'elle ressentait pour Monsieur de Châteaufort, avait voulu chercher auprès de sa mère la force d'y résister. Le rhume et la fluxion de poitrine étaient la conséquence de la précipitation de son départ. Sur ce point, on était d'accord. Darcy ne parlait jamais d'elle. 3 ou 4 mois après sa mort, il fit un mariage avantageux. Lorsqu'il annonça son mariage à Madame Lambert, elle lui dit en le félicitant « En vérité, votre femme est charmante !» Et il n'y a que ma pauvre Julie qui aurait pu vous convenir autant. Quel dommage que vous fussiez trop pauvre pour elle quand elle s'est mariée. » Darcy sourit de ce sourire ironique qui lui était habituel, mais il ne répondit rien. Ces deux cœurs qui se méconnurent étaient peut-être faits l'un pour l'autre.